Alors moi je vais vous parler de Courfeyve, qui est donc, première chose que j'apprends moi-même, une ancienne commune du Jura suisse.
Tu l'apprends que maintenant?
Bah ouais, par contre, je vous dis, j'ai rien appris, tout est là, j'espère que ça va être bien, parce que je sais pas, je vais vous lire des diapos, je vais vous lire des diapos. Donc non pas une commune du Jura suisse, mais bien une ancienne commune du Jura suisse, car Courfeyve, légalement, n'existe plus. Autrement qu'on lui a dit. Bon bah bonjour déjà. Hein. Alors comme toute présentation, faut commencer par une diapo qui parle de soi. Mais ce que je voulais surtout, c'était vous faire remarquer que je ne porte pas cette veste que pour le TZ. Donc je porte régulièrement des vestes en velours, ce qui me donne une sorte de position d'autorité, de légitimité en tout ce qui concerne l'histoire, la géographie. La philosophie aussi, souvent. Psychologie. Les profs de psycho aussi, ça passe. Donc voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'histoire, un peu de géographie, mais surtout d'histoire. Parce que je vais vous parler de Courfeyve. Courfeyve, maintenant, qui fait partie de la commune de Haute-Sorne. L'histoire d'un village, ma foi, banal. Alors ça, c'est vraiment ce qui marque en premier. Courfeyve, voilà, alors c'est le petit drapeau noir qui est rouge en principe. Je sais pas pourquoi il est noir, mais on va pas se commencer à se poser de questions. Donc voilà, au nord du canton du Jura suisse, donc quasiment à la frontière française. Donc ça, c'est la Suisse. Là-haut, c'est le Jura suisse. Et vous avez Courfeyve en plein milieu. Courfeyve, en Suisse, dans le canton du Jura, je le répète, dans le district du Delémont, et depuis 2013, donc, qui fait partie de la commune de Haute-Sorne. Alors, beaucoup de blasons, de drapeaux, parce que mes recherches m'ont amené à m'intéresser à l'héraldique. Donc, le blason de Courfeyve, blason gueule bordé d'or, au chat argent assis. Hein, voilà, c'est comme ça que ça se dit. Et j'ai eu du bol de tomber sur un blason simple parce que putain, je me suis renseigné. Il y en a, c'est super compliqué. Surtout quand il commence à y avoir plusieurs blasons dans le blason. Et
mais il est gueule celui-là.
C'est le blason qui est gueule. Le chat est argent.
Oui, le chat.
Ah oui, ouais.
C'est quoi gueule?
Gueule, c'est rouge en fait. Genre. Et je dis gueule parce que je sais pas comment ça se prononce et que gueule, c'est pas terrible. Le saviez-vous, dans les blasons, dans les armes, les blasons, donc les symboles, il y a les armes héraldiques et les armes parlantes. C'est-à-dire que certaines armes sont là pour leur signification symbolique, et d'autres sont là uniquement pour leur consonance. Par exemple, l'emblème de la ville de Chaours, c'est un chat et un ours. L'emblème de la ville de Galice, c'est un calice, parce que c'est super approximatif, et il y en a des milliers comme ça. Donc du coup, en héraldique, il y a deux façons d'étudier un blason, c'est soit par rapport aux armes parlantes, soit par rapport aux armes symboliques. En l'occurrence, les armes parlantes, alors, a priori, non. Alors pourquoi un chat blanc? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas pu vraiment répondre. Je voulais appeler la mairie de Courfeyve pour avoir plus d'informations. Le truc, c'est que j'ai fini tout ça à l'arrache, donc forcément je l'ai pas fait, mais je voulais le faire.
On va l'appeler en live.
Mais non, pas là-bas. Non, la mairie de Courfeyve n'existe plus, mais ça existe toujours en tant qu'entité administrative au sein de. C'est-à-dire qu'il y a toujours le site web de courfeyve.com qui existe. Je fais une petite capture d'écran après, vous allez voir, c'est exactement comme vous imaginez. voilà, ce blason, pourquoi le chat? Le chat en héraldique, c'est un symbole assez particulier parce qu'il a des symboliques très très paradoxales. Le chat, c'est l'indépendance, c'est très souvent la résistance face à un ennemi. Il est très, surtout quand il est en position assise, parfois la patte posée sur une souris. Donc voilà, c'est souvent un blason que le seigneur local a donné à une communauté parce qu'il s'était bien défendu face à un ennemi.
Donc Courfeyve a des ennemis.
Peut-être. C'est bien là tout le sel du truc. Alors, Le truc, c'est que cette perception un peu positive, elle est au final assez rare en héraldique. Alors là, je suis tombé sur les travaux de Pierre Payot, donc un héraldiste, je sais pas, d'époque, qui, lui, et je cite, disait dans son ouvrage La vraie et parfaite science des armoiries, vrai, V-R-A-Y-E, donc à quel point c'est d'époque. Donc il disait à l'article chat, plus dommageable qu'utile, ces milliardises, plus à craindre qu'à désirer. Parce qu'en vrai, la symbolique à l'époque du chat, s'il y avait effectivement ce côté de liberté, d'indépendance, c'était vraiment, enfin, en tout cas quand lui il l'évoque, c'était plutôt dans le sens de la rébellion, en fait. Donc, je vous demande de juste garder ça en tête, pour plus tard. Courfèvre, c'est 1600 habitants, c'est-à-dire c'est pas vraiment un village, c'est pas vraiment une ville, c'est moyen. C'est une superficie de 12,4 km², sachant que mon village de 500 habitants doit faire à peu près 30 km². C'est pas grand, mais c'est pas petit non plus. C'est à 460 mètres de haut, donc alors tout de suite quand on pense au Jura suisse, on pense aux montagnes. Bah en fait, pas plus que ça. Mais c'est pas bas non plus, c'est vraiment... moyen.
Banal.
C'est super banal. Courfèvre. L'histoire de Courfèvre commence vers l'an 500. On a retrouvé des tombes mérovingiennes dans ce coin-là. Rien pendant à peu près 600 ans, jusqu'en 1147, ce qui est la première mention de Courfèvre dans un texte sous le nom de Courfavreau. Ne me demandez pas exactement pourquoi Courfavreau. Hein ?
Merci.
Voilà, non. Ensuite, en 1271, Courfèvre revient à l'évêché de Bâle. Pareil, ce sera important pour la suite. Donc l'évêché de Bâle, Bâle qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres, à 30 kilomètres à peu près à vol d'oiseau, de Courfèvre. En 1793, lors de la Révolution française, le Jura devient pas nation, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, le peuple du Jura décide de prendre son indépendance et de devenir une république, et en fait intègre la France dans le département du Mont-Terrible. Et comme c'était pas terrible, justement, ils ont ensuite appelé le département le Haut-Rhin, jusqu'en 1815, date à laquelle, suite au congrès de Vienne, en gros, c'est les débuts de la Confédération helvétique. Et Courfèvre ainsi que tout le district revient au canton de Berne. En 1815, excusez-moi. En 1979, hein, voilà, encore une fois, il se passe plus de 100 ans sans qu'absolument rien du tout ne se passe à Courfèvre. Il y a un refactor à merger mon background, je ne sais pas comment ça s'appelle en histoire. Et un refactor administratif du pays, et donc le canton du Jura suisse est créé, et Courfèvre en fait partie. Et en 2013, donc assez récemment, Courfèvre disparaît pour former la commune de Haute-Sorne avec Basse-Cour, Glovelier, Souls et Underveillier. Apparemment. Voilà, donc une histoire, voilà.
Alors,
donc vous avez compris, une histoire banale et aussi un historique internet assez banal. C'est-à-dire que j'ai hésité entre deux vidéos, je me suis dit que la fête du village de 2011, c'était pas mal. À droite, bien sûr, le site internet de courfèvre.com, alors une vision tout à fait moderne du blason, de très bon goût, hein, voilà. Un liseré, alors le titre de courfèvre.com, liseré vert fluo, fond rouge, alors petit ombré à l'intérieur, oui. Et un site qui doit être mis à jour à peu près tous les 3 ans. Donc c'est voilà.
Les effets sur le d'optique sur le blason sont magnifiques.
Les transitions sont incroyables.
Ah mais tout ce qui concerne en fait sur le net, Courfèvre, c'est ça. C'est vraiment ça. J'ai hésité aussi à vous mettre une vidéo. J'ai vu une y avait une vidéo, elle était pas mal, mais je vais juste vous raconter. Une fois, Courfeyrac a été aux informations régionales parce qu'il y avait eu des inondations et la voix off, en gros, en substance, dit inondation à Courfeyrac, deux caves inondées, 10 pompiers mobilisés. Banal, moyen, ultra moyen, tout est
même
moyen.
Même pas un petit blessé
que... Non, certainement pas, non.
Il se passe rien.
Il ne se passe rien à Courfeyrac.
Ouais, c'est la fête du village, quand même.
Ah, il y a des gens qui boivent, quoi.
Il ne se passe rien à Courfeyrac, mis à part, malgré tout, je dois en parler, Condor, les usines Condor.
Pourquoi Casier avec un C?
Parce que je ne sais pas écrire Casier.
D'accord.
Tu
me croises. Oui, maintenant que vous le dites.
Vas-y. Mais...
Ne me déconcentrez pas, s'il vous plaît. Non. Les usines Condor, donc une fabrique de cycles et de motocycles, donc fondée en 1893 en tant que fabricant de cycles, mais fondée surtout en 1891 par Victor Donzello et Edouard Schaeffer, donc qui étaient des horlogers franc-comtois. Oui, non mais c'est-à-dire que. Je vais expliquer. Ça devient des fabricants de cycles à partir de 93. En 91, Donzello et Schaeffer, des horlogers franc-comtois, montent une fabrique ensemble et très vite vont commencer à fabriquer dès 93 des bicyclettes. Donc sous la marque Schaeffer Frères, et vont en 96 transformer Schaeffer Frères en Condor. Condor, alors pareil, là pour moi je tenais une piste, ça y est, il y avait quelque chose. C'est une entreprise tout à fait banale et moyenne qui a tenu quand même en gros un siècle malgré tout. Mais donc, alors les moments forts en 1905, ils ont fabriqué le vélo d'ordonnance 05 qui a été le premier, la première bicyclette qui leur a permis de tenir aussi longtemps parce qu'ils avaient un partenariat avec l'armée suisse. Donc le vélo d'ordonnance 05 était... non, pardon, c'est un vélo, mais tu peux déplier des trucs et tout. Et donc le vélo d'ordonnance 05, en fait, c'est le début dans l'armée suisse de l'infanterie cycliste. Ça a existé. Ça a même existé jusqu'à très récemment pour le folklore. En 2000, alors je sais plus exactement, mais je crois qu'en 2002, il y a eu des réformes de l'armée où ils ont fait non, bah, on va arrêter maintenant. C'est bon. Et du coup, voilà. Donc, et ensuite, très très rapidement, à partir des années 10, ils ont commencé aussi à faire des motos. D'ailleurs, ça, il s'agit du modèle A480 qui a été surtout le. Alors là, c'est l'A480-1, puisqu'il y a eu plusieurs essais. Donc là, par contre, qui a équipé l'armée suisse aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ils en ont pas fait grand chose. Et alors, ouais, alors clairement, les Suisses ne savent pas faire moto. Il y a un truc qui ne marche pas. Alors, ils ont notamment livré, je cite, les fameuses motocyclettes A580, A750, A250, jusqu'en 1969, où ils ont arrêté de produire eux-mêmes leurs moteurs et ils ont commencé à utiliser des moteurs Bugatti, et où là, c'est devenu absolument n'importe quoi. Par exemple, alors là, je vais essayer de citer, le Condor A350 était un montage hétéroclite, le bras oscillant était monté sur cylindre bloc dans le bloc moteur, n'importe quoi par exemple. Mais en gros, ça en faisait une moto totalement instable, dont ils avaient dû dégonfler le moteur Bugatti, et donc c'était un moteur qui à la base devait faire à peu près, je crois, 20 chevaux, mais en fait qui en faisait 10 dans le modèle final. Donc voilà, des motocyclettes tombent complètement moyennes. Juste donc tout ça a plus ou moins tenu le coup jusqu'en 90 où l'entreprise a cessé la production de bicyclettes. Puis en 2005, l'entreprise s'est fait racheter par Fast Aerospace Technologies, qui est en fait une filiale de Dassault. Donc en 2005 et en 2007, ils ont décidé de fermer parce qu'en fait ça ne marchait pas. Et donc voilà, donc au final, c'est Condor quoi qui...
C'est un peu collector aujourd'hui.
Ça doit être très très collector, mais ça ne doit pas coûter cher pour autant. Il y a, l'entreprise en 1900 avait 17 ouvriers et s'est montée jusqu'à un maximum de 200 ouvriers en 1950. On se dit pas mal, mais c'est très très vite redescendu à 128 puis à 60 en 2000. Donc c'est vraiment le plus haut fait économique de Courfeyrac. Alors moi je vous propose une petite visite de Courfeyrac. Une petite visite. Une petite visite grâce à Google Street View. Alors Courfeyrac, nous sommes rue de la Roderie, si je ne m'abuse. Rauracie, oui c'est ça. C'est tout à fait ce que je dis. Rue de la Rauracie à l'entrée de Courfeyrac. Donc voilà, donc alors, les contreforts du Jura, hein, comme vous pouvez le voir, ou pas. Enfin, pas vrai. C'est un petit peu vallonné. Une magnifique voie de chemin de fer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une gare à Courfeyrac qui
descend
jusqu'à Berne-Ball, etc. C'est un cycliste, mais pas sur un vélo Condor. donc, alors, on va rentrer. Donc, Courfeyrac, d'abord et avant tout, une rue principale, hein, rue de la Rauracie. et là, nous arrivons aux usines Condor.
Et c'est fini.
Et impossible d'aller plus loin.
Quel mystère se cache.
Et là, je dois vous avouer qu'à ce moment-là de mes recherches, je me pose des questions. J'ai beau être scientifique, quelque chose me... C'est-à-dire que non, on ne peut pas rentrer dans Courfeyrac avec Google Street View. Et comme vous pouvez le voir ici, on est à peu près au milieu d'une route, ce qui veut dire que la Google Car a probablement disparu à ce moment-là. Pouf ! Je ne veux plus rien.
C'est le triangle des Bermudes suisses.
Alors...
Une abduction.
Tout de suite, je me suis dit, ça doit être un coin un peu isolé, donc probablement que... Très peu, les Google Cars sont très peu passés dans ce coin-là. Je suis quand même allé voir... Ah non, on va faire comme ça. Je suis quand même allé voir le village d'à côté. Et le village d'à côté, qui s'appelle... Hop là, j'ai oublié un truc, c'est pas grave. Qui s'appelle Courtetel, parce que ça s'invente pas. Vous pouvez le voir d'ici, il n'y a pas vraiment de problème avec... comme ça. Ouais, on va aller dans le centre. Voilà. Courtetel, on peut aller dans Courtetel jusqu'à la place de l'église sans problème. Donc pourquoi, me direz-vous, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rentrer?
Mais pourquoi?
Donc en fait... J'ai essayé de l'autre côté, non, impossible. J'ai tout essayé, on ne peut pas.
Montre-nous, on n'entend pas.
On veut le voir, on veut l'épreuve.
Vous voulez voir Tétel?
Essaye de rentrer dans la boîte.
Ah mais ça se voit d'ici, regardez, c'est bleu où on peut aller. On ne peut pas y aller, c'est impossible. Alors...
Il y a un truc bleu au-dessus, mais c'est...
Ah c'est l'autoroute, c'est normal. C'est l'autoroute je sais plus combien qui relie je sais plus quoi, si vous voulez vraiment des détails, faut pas déconner.
Pas l'autoroute.
Non, il y a une sortie Haute-Sorne du coup.
Ah, Basse-Cour ? Une sortie Basse-Cour ?
Je ne crois pas. Alors, je me suis dit, c'est pas grave, pas de Google Street View, on peut toujours avec Google Earth, avec la vue par satellite, faire quelque chose. Hop, pas trop vite, j'avais pas vu où j'étais. Donc je suis allé sur Google Earth et je me suis dit, ok, pourquoi je ne peux pas atteindre les usines Condor ? Y aurait-il quelque chose ? Et manifestement, non. Hein, bah oui, c'est Courfeyrac, donc forcément, il n'y a pas de missiles cachés ou de centrifugeuses à uranium ou je ne sais quoi. Du coup, je me suis un peu baladé comme ça et je tombe sur un commerce. Premier commerce qui s'appelle La Petite Grotte. Je clique. Magasin d'articles spirituels. Ah. Là, j'ai... Je vous avoue... Je suis à la fois titillé et je me dis « Oh, je tiens quelque chose pour la conférence de ce soir !» C'est parfait. Donc je m'intéresse à La Petite Grotte. Je vais sur leur site. C'est absolument tout ce qu'on attend d'un site de voilà. On y trouve des pendules, on y trouve des encens, des tonnes d'herbes ou de produits très très kitsch comme des petites statuettes de différentes divinités, enfin à peu près tout ce qu'on pourrait s'attendre. Mais pourquoi en plein milieu de Courfeyrac, pourquoi dans cette petite bourgade la petite grotte. Pourquoi un magasin d'articles spirituels, comme le dit Google. Du coup, je me renseigne, je vais dans les registres du commerce suisse, et je m'aperçois que la petite grotte est tenue par une certaine Franca Claudine Mayer, née thomane, qui avait avant ça une autre boutique d'articles spirituels à Berne. Et du coup, je me dis, mais qui est-elle ? Qui est Franca Claudine Mayer ? Ah, il y avait plus de contraste, c'était vachement plus... vachement plus dramatique. Ça m'a ah non, c'est parce que je suis de côté. Ok. qui est Franca Claudine Mayer ? Alors, eh bien, pour tout vous dire, je ne sais pas. impossible. Sur Facebook, personne. Sur Copain Suisse d'avant, personne. impossible de trouver autre que... Il s'agit de la propriétaire de la petite grotte à Courfeyrac.
Est-ce que c'est la maire du village ?
Non.
La bourgmestre ?
Non, elle n'est personne. Et même, Pierre, je vais vous en dire plus dans un instant, le temps que je retrouve ce que je veux dire. Dans les registres des commerces du village, sur le site courfeyrac.com, la petite grotte n'apparaît pas.
Il y a des mystères.
Vous êtes d'accord avec moi ? On commence. Je pense qu'on nous cache quelque chose. Je reviens au blason. Je reviens aux différentes symboliques du chat. Je reviens au côté rebelle du chat. Je reviens au côté peut-être mal vu. Qu'avez-vous dit ?
La sorcière !
Que se cache-t-il à Courfeyrac ?
Mais il est troublant, ce chat.
Alors, là, je me dis, c'est bon. Je continue légèrement mes recherches, je me rends compte que le seul événement à venir à Courfeyrac, sur le site de Courfeyrac, dans la rubrique événements à venir, le seul qui existe, est Halloween. Je me dis, c'est bon, je tiens ma conférence.
La sorcière.
À la base, je voulais faire une conférence qui s'intitulait Jura Swiss Park sur la réintroduction. Et là, je me dis, mais non, j'ai trouvé, c'est bien mieux. Eh bien, vous savez quoi ? Là, je me suis complètement fait avoir parce qu'en fait, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui pouvait être la sorcellerie en Jura Suisse. Et ben, j'avais même pas besoin de parler de la fête d'Halloween à Courfeyrac parce qu'en fait, l'évêché de Bâle, donc dans le Jura Suisse, l'évêché de Bâle dont dépendait Courfeyrac, non seulement la sorcellerie y est très très bien documentée, mais elle y a été, en tout cas les procès pour sorcellerie ont été, enfin ça a été très 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 actif au 16e et au 17e siècle, au 16e ou jusqu'au 18e siècle effectivement. 181 femmes ont fini au bûcher dans l'évêché de Bâle à ce moment-là, ce qui est un chiffre complètement affolant, même pour l'époque. C'était vraiment la sorcellerie, c'était le buzz là-bas, c'était la sorcellerie du Jura. Quoi. Donc les premières traces écrites datent de 1549, mais les minutes du procès ont été perdues. Par contre, entre 1571 et entre 1712, il y a comment est-ce qu'on appelle ça ?
Des écrits ?
Des écrits, oui, mais beaucoup de documents. Il y a des registres qui sont en parfait état et... je me suis perdu moi-même. C'est ça, donc un siècle et demi de procès, de 1571 à 1712, très très bien documenté. Surtout grâce au recueil de procès et aux confessions pour faits de sorcellerie qui sont conservés aux archives du Jura. Une lecture passionnante, à peu près 600 pages de procès. Une liste d'événements juste dans le Jura, il y a un site internet qui parce que ça a été très documenté qui est infini sur le nombre d'événements liés à la sorcellerie dans le Jura.
Est-ce qu'on connaît la méthode préférée de jugement ?
De sentence
comment c'était déterminé, comment juger de la bienveillance ou de la malveillance
à l'ancienne, torture. Torture, torture, torture de la
vraie.
C'est la,
ça marche très
bien
pour avoir
la bonne vraie torture.
Voilà.
Sinon, elles étaient généralement brûlées. Brûlées, sauf si elles... Enfin, ah non, elles étaient systématiquement brûlées. Si elles étaient reconnues coupables. Elles étaient systématiquement reconnues coupables, en gros. Et elles étaient brûlées vives.
Une fois sur deux, puisqu'il y avait... 110
condamnations. Non. 204 accusations, 181 femmes brûlées.
Ah oui, non, c'est
dans ce qui reste, il y a les hommes qui sont probablement fait cramer aussi, et ceux qui sont fait acquitter, ou il y a des doutes, ou. Non, quand il y a des doutes, elles se font cramer. Donc oui, la question était la méthode. Alors la méthode, elle était. L'exécution était simple, c'était au bûcher. Mais on est sympa, on t'étrangle avant si tu reconnais les faits. Et si tu confesses.
Mais pourquoi avec survivant dans ce sens ?
Alors,
t'as combien de minutes là ?
J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Je suis désolé. Et donc là, à la fois le mystère s'épaissit, ou en tout cas le mystère se précise même étrangement. Et en même temps, j'oublie mes conneries de vous faire des blagues d'Halloween, parce qu'en fait, c'est complètement passionnant. Je suis tombé donc sur un texte donc par un historien, Jean-Louis Reiss, qui parle justement de la sorcellerie dans le district de Delémont, et en particulier à Courfèvre. C'est un texte un peu romancé, mais basé sur des écrits et des faits historiques. Qui raconte que 12 sorcières et sorciers du district auraient pactisé avec le diable et auraient, dans une grotte du coin, dans une source, qui est dans une grotte dont j'ai oublié le nom bien évidemment, avec des bâtons de noisetier et de saule tapés dans l'eau pour faire tomber la grêle.
Oulala.
À de nombreuses reprises.
Oulala.
Certes, soit,
cherche la merde.
Mais alors. Plusieurs faits intéressants. Premièrement, une des sorcières était originaire de Courfèvre. Deuxième fait intéressant, l'église de je ne sais faut, je pourrais retrouver, mais une église d'un village du coin était reconnue pour, quand ses cloches sonnaient, rompre le charme. Et grâce à cette église, les gens du district étaient persuadés qu'il n'y aurait jamais de grêle. Fait plus ou moins appuyé par les météorologues, c'est que effectivement il y a très peu de grêle dans ce coin-là. Alors bien sûr, la paroisse et le curé sont persuadés que c'est grâce à eux. Chose malgré tout un peu étrange, comment on croit en un truc peut-être plus ou moins. Ces croyances, disons-le. Ouais, bon. Ces croyances ont des répercussions jusqu'au XXe siècle, en 1960. La croix que vous voyez ici, qui avait été placée à l'entrée de la grotte, à l'entrée de la source, pour éviter que les sorcières puissent faire s'abattre la grêle, a été renouvelée, a été reconstruite, rénovée, avec dans l'intention. Ah, ça y est, c'est le moment où j'oublie mes mots. Première, mais surtout avouée, de lutter contre les mauvais charmes, en fait. Dans les années 1960. Là, je reviens un peu en arrière, je fais « Oh merde, non, il y a peut-être vraiment quelque chose, quoi. »
Est-ce que Franca, Franca Dolores, je sais pas quoi, Claudine.
Claudine.
Subventionné, en quelque sorte, ce...
On reviendra plus tard.
C'est la petite grotte.
La petite grotte.
Extrait des minutes du procès, d'un procès pour l'instant. En 1587, la sorcière Marie Maigre de Courfèvre fut convoquée par son maître Carimus du nom que se donnait le diable.
Oui, comme nom pour la zone.
Moi, je tombe là-dessus et là, je me dis banco, il y a Courfèvre dedans, c'est parfait, il y a des dates, ça va leur faire plaisir. Pour une conférence, c'est très bien. Et là, je tombe donc sur le nom de Marie Maigre. Marie Maigre. la sorcière de Courfeyrac. Et je me penche de plus près sur les archives. Comme vous pouvez le voir là, extrait des minutes de son procès. Donc elle est arrêtée en 1589 pour sorcellerie. Youpi, une de moins, comme qui dirait. Mais c'est là, moi, là, à ce moment-là, que mon envie de faire tourner cette conférence autour de l'occulte, autour de... J'avais prévu d'arriver décoiffé, en mode, je viens de perdre une journée, je sais pas ce qui s'est passé, je voulais la jouer Cthulhu. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis tombé sur des documents super intéressants, parce qu'en fait, ça a été retranscrit, heureusement, en français de maintenant. Et je suis tombé sur trois documents. Un procès-verbal d'interrogatoire, datant du 30 juin, puis la reconfession du 18 juillet, soit à peu près deux semaines plus tard, deux, trois semaines plus tard, après deux ou trois semaines de torture. Et ces deux documents sont très intéressants, surtout quand on les met en relation avec les dépositions de témoins. Parce que ce procès-là avait quelque chose de très particulier. Déjà, il était vraiment documenté. Et beaucoup de témoins sont venus soutenir Marie Maigret. Parce que, en fait, ce qui se passe, dans le procès-verbal d'interrogatoire, Marie Maigret explique que elle est née à l'âge de 4 ans, elle a perdu l'usage de ses jambes, a priori parce qu'une vieille femme lui avait jeté un sort. Et 10 ans plus tard, deux fées sont venues la voir, lui ont dit: on sait ce qui t'est arrivé. On va te soigner, mais tu dois prier, tu dois partir en pèlerinage. Et elles l'ont touché, et le lendemain, Marie Maigret pouvait marcher. Elle l'a d'abord caché, mais elle pouvait marcher de ses propres dires. Mais effectivement, presque 40 ans plus tard, parce que c'est donc en 1589, elle a entre 50 et 60 ans, les fées viennent la visiter régulièrement, et les fées viennent l'aider à soigner les autres. Marie Maigret est connue non seulement dans tout le district, mais a priori sa notoriété dépasse les frontières suisses et vient jusqu'au Jura français. Beaucoup de gens disent du bien d'elle parce que c'est une femme qui, juste quand les médecins de Bâle peuvent plus rien faire, les gens vont la voir, et c'est une guérisseuse. Tu peux? Non. Une guérisseuse, mais une guérisseuse qui, malgré tout, aussi à chaque fois dit de prier tel ou tel saint, de partir en pèlerinage. Donc elle est très croyante. En 1589, donc elle est veuve, et les historiens pensent que si au final elle a fini avec un procès pour sorcellerie, ce serait probablement parce qu'une femme seule à cette époque-là, qui a un certain pouvoir, ça ne plaît pas, en fait. Et effectivement, à charge, il y avait les médecins, les notables, les ecclésiastes de pouvoir du coin, et malgré les dépositions et les témoignages de ses concitoyens qui la considéraient comme quelqu'un de bien, eh bien, trois semaines de torture, et la reconfession, c'est la même histoire, mais en complètement horrible, avec ce fameux Cassarus qui vient la voir, qui a des ongles fourchus, des pieds fourchus, et qui lui dit qu'elle doit faire ça, qu'il l'oblige, et qui l'oblige justement aussi à rejoindre le sabbat des 12 sorciers et sorcières de Délémon pour faire tomber la grêle. Et donc, comme elle confesse, elle finira brûlée. Et là, moi, j'étais à peu près en larmes, parce que c'est une histoire très très triste. Un extrait, donc, encore une citation d'un des témoins qui la connaissait de longue date, Et voilà, Marie Maigre, c'était a priori quelqu'un de bien. Du coup, moi, ce que je me demande, c'est justement, est-ce que Franca Claudine Mayer est une descendante de Marie Maigre ? Y a-t-il toujours un bon sort qui protège Courfeyre, au final, des forces des ténèbres que sont Google et consorts ? Du coup, voilà. Et là, ça, j'en suis là, en fait. Ça, c'était aujourd'hui. J'aimerais aller plus loin dans mes recherches. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai réunis ce soir, pour une demande de financement. Et voilà. Courfeyre. On sent que sur la fin, c'est beaucoup trop.
Le niveau est beaucoup trop.
Donc si vous avez des questions, ça a duré longtemps ou trop longtemps ?
Non, c'est trop
bien.
Ah putain, merde, je suis désolé. Donc voilà, Courfeyre. Au final, Courfeyre, banal.
Question en apparence.
Des questions ?
Le nom des habitants. Moi, ça m'intéresse.
Les Courfeyre.
Gentilé.
Ouais.
La gentilité ?
Le
gentilé. Le gentilé.
Courfeyre. Pourquoi Courfeyre en 1114 ?
Courfeyre.
Oui, la première.
Alors, en fait, ça vient du latin. Je peux retrouver dans mes documents. Si vraiment la question vous. Je sais pas où je vais le retrouver. Cortis fabra, qui veut dire. Je sais plus. Ah merde, j'ai pas noté ce que ça veut dire. Ça vient de Cortis fabra, apparemment. Mais bon, pas la peine que je vous traduise, tout le monde connaît son latin.
On a un Pierre qui est avec la
Non, pardon, je.
Ça y est, Et le velours, ça fait beaucoup trop chaud.
Question
aussi.
Le t-shirt, ça fait beaucoup trop chaud déjà.
Ouais. Voilà, et j'ai pas tout mis dedans. En vrai, j'ai halluciné quand même, c'était pas si grand. Parce que je suis tombé sur plein de documents assez fous.
Est-ce que je peux me permettre de leur envoyer ça?
Oui, ah, c'est tellement content, mais il n'y a pas de texte.
Juste pour leur pub personnelle. Il y a quelque chose qui se passe dans notre village.
On est sur leur site.
Après, bon, ça y est, la conférence est finie. J'ai dit que la vérité. J'ai peut-être omis un ou deux trucs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rien que ça, là, j'ai été obligé de le refaire, le blason. Parce que le trouver dans cette qualité-là, c'était juste impossible.
Alors, ça a vectorisé leur truc.
Ouais.
Ah ouais.
Mais non, mais il manque des moustaches et tout, enfin, c'est genre, c'est n'importe quoi.
Ah, c'est pour ça que les moustaches sont pas la même taille.
Ah non, j'ai viré la. Ouais, parce que à un moment j'ai. Je sais pas si ça a marché. Ça a marché ? J'avais prévu de partir plus sur le côté occulte et du coup. C'est fini hein, en vrai. Hein.
Vraiment montrer.
Oui, en vrai, si vous fixez ça assez longtemps, vous êtes à court faire. En fait. Vous devenez banal et complètement moyen. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, bon, j'arrête.